Vous êtes sur les ondes de Boulevard 101, c'est Boulevard Against le matin avec Jeff Fortin, Max Larouche et Mathias Turcotte. Il est présentement 8h20. Vous pouvez toujours réagir avec nous au 418-971-1021. Vous le faites énormément depuis le début de la matinée. On est très content de vous lire, que ce soit pour des bons messages de remerciement pour notre émission, pour vos opinions politiques. On adore interagir avec vous. À la météo, c'est présentement 15 degrés. Ce sera 26 degrés, généralement ensoleillé pour aujourd'hui. 27 degrés demain et 28 degrés samedi. Max, c'était le bordel sur de la capitale en raison d'un accident. Est-ce que ça s'est dégagé un peu ou c'est toujours le cas?
Ouais, ben tranquillement, pas vite, ça devrait mieux aller parce que l'accident en tant que tel, là, s'est ramassé, tout est beau. Par contre, évidemment, il y a des répercussions par bout là, qui se font sentir. Capitale-Ouest, donc, entre l'avenue du Beau-Royal et Laurentienne. Après ça, t'as un petit break, mais un petit ralentissement qui reprend un peu passé Robert Bourassa. Secteur des ponts, c'est quand même assez beau présentement.
Témoignage fort important aujourd'hui à compter de 9h à la commission Galland. C'est l'ex-ministre des Transports, le ministre actuel de la Sécurité publique, François Bonnardel, qui va s'asseoir et qui va répondre à toutes les questions. Et pour en discuter avec nous, on a le député du Parti québécois dans la circonscription de Jean Talon et critique en matière de transformation numérique au bout du fil, Pascal Paradis. Monsieur Paradis, comment allez-vous?
Ça va bien vous-même, messieurs?
Ça va super bien. Monsieur Paradis, on se lance directement dans le vif du sujet. Quel sentiment vous habite à l'heure actuelle alors qu'on est enfin arrivé à ce témoignage clé-là de François Bonnardel?
Bien, le mot-clé, c'est « enfin », parce que ça fait des mois qu'on pose des questions. Au départ, au Salon Rouge à l'Assemblée nationale, c'était des ministres qui se protégeaient entre eux, puis le premier ministre qui protégeait ses ministres. Ensuite, la commission a été lancée et là, ça a été plus de réponse du tout. La commission va faire son travail. Aujourd'hui, des questions très difficiles pour le ministre Bonnardel parce que ce qu'on a appris dans les derniers jours, c'est que ce n'est pas que le cabinet se faisait mentir ou se faisait cacher des informations par la Société de l'assurance automobile du Québec. C'est plutôt l'inverse, qu'à la fois sur les dépassements de coûts et à la fois sur les dépassements de délais. Ce qu'on apprend, c'est qu'il y avait des informations qui étaient transmises au cabinet par la Société de l'assurance automobile du Québec et que le cabinet a décidé sciemment de ne pas les transmettre aux députés de l'Assemblée nationale à travers la commission de l'administration publique. C'est très grave parce que les ministres n'ont eu de cesse de nous dire que c'était le contraire, qu'ils n'avaient pas eu l'information.
Là, le témoignage de François Bonnardel va commencer aujourd'hui. Est-ce que pour vous, peu importe ce qui va se dire dans les prochaines heures, ce qu'on a appris dans les derniers jours concernant François Bonnardel, c'est déjà indéfendable. Puis peu importe ce qui arrive, il peut pas s'en sortir, puis ça va prendre une démission.
Bon, là, on va attendre son témoignage. Là, vous savez, nous, au Parti québécois, on dit tout le temps que les demandes de démission, là, c'est un peu comme quand on était jeune, là, qu'on avait une partie de baseball, puis qu'on n'était pas content, puis on disait « on dépose un protêt ». Je sais pas si vous vous souvenez, là, mais
contre l'arbitre. Ou la demande de démission, ça ressemble-tu à « ça va pas bien qu'une équipe d'hockey on congédie le coach »
Ben, je dis pas que les démissions, c'est jamais justifié. Mais là, on va l'entendre, le ministre Bonnardel, aujourd'hui. En plus, il y a un remaniement ministériel qui est annoncé là, depuis longtemps puis qui s'en vient dans les prochains jours. Mais certainement, actuellement, ce qu'on a, c'est... vous savez, là, avant la fin de la session, il y avait eu une demande que le Parlement se penche sur un outrage au Parlement, c'est-à-dire que des ministres nous ont caché de l'information. Donc, dans ce temps-là, on dit qu'ils ont commis un outrage à l'Assemblée nationale. Ça n'avait pas avancé, ça notamment en raison de la décision du gouvernement. Mais est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Parce que si c'est effectivement ce qu'on nous dit depuis quelques jours, c'est-à-dire que le cabinet avait l'information notamment au départ là, d'un dépassement de 200 millions de dollars, les premiers 200 millions de dollars de dépassement, les premiers délais d'un an. Le cabinet du ministre Bonnardel avait l'information, a décidé de ne pas la transmettre. Bien, ça, c'est grave parce que c'est pas du tout ce qui nous a été dit à l'Assemblée nationale. C'est pas du tout ce que les ministres ont affirmé.
Avec un outrage au Parlement comme ça, est-ce qu'on peut forcer des élections hâtives? Parce que pour vous, est-ce que si c'est prouvé avec le témoignage de François Bonnardel aujourd'hui qu'on a sciemment caché des informations à l'Assemblée nationale et par le fait même aux contribuables et au public, est-ce que ça nécessiterait des élections hâtives parce que la CAQ ne serait plus légitime de gérer la province?
Bien, on va encore attendre d'avoir... Parce que là, on a le témoignage de François Bonnardel qui commence aujourd'hui. Ensuite, on va avoir Geneviève Guilbeault. Ensuite, nous, on espère entendre la présidente du Conseil du Trésor, parce qu'on est toujours étonné qu'il y ait un demi-milliard de factures qui a été payée sans qu'on pose trop de questions. Puis ensuite, la question de la confiance. Là, les Québécois sont en train de porter un jugement sur la performance du ou l'absence de performance du gouvernement de François Legault. On l'a vu dans l'élection partielle dans Arthabaska. Il y a eu un jugement très difficile parce que le gouvernement de la CAQ là, a eu un pourcentage minime du vote. Vous le voyez dans les sondages. Les sondages, on comprend, ça monte, ça baisse, mais là, ça commence à être constant, l'absence de confiance du gouvernement. C'est un gouvernement usé déjà après 7 ans. Et c'est vrai que on a très hâte que les Québécois puissent se prononcer sur la continuation ou non de leur mandat.
Comment on le reçoit d'ailleurs, ce sondage-là, léger qui est sorti cette semaine, qui redonne quand même une bonne pousse au Parti québécois, plus difficile pour les conservateurs. On voit que l'effet Pablo Rodriguez chez les libéraux, ça n'existe pas vraiment. Très difficile pour Québec solidaire. Pour le PQ, c'est une petite tape dans le dos, j'imagine, pour dire on continue puis ça va bien aller.
Ben, vous venez de le dire, c'est ça. Les gens nous disent, on aime votre travail. C'est ce qu'on entend dans les rues, hein, quand on fait du porte-à-porte. Les gens nous disent, moi, je reviens au Parti québécois ou je vais changer pour le Parti québécois ou je confirme mon vote pour le Parti québécois parce que j'aime la façon dont vous faites de la politique. Vous nous parlez avec rigueur, vous faites appel à notre intelligence, vous avez des propositions constructives, vous proposez un projet de société intéressant. Les gens nous le disent dans la rue. Mais vous m'avez déjà posé cette question-là, je vous réponds aussi toujours la même chose. Je peux vous dire que notre travail, lui, il n'est pas influencé par les sondages. Nous, on continue avec notre plan de match. Ça monte, puis ça descend des sondages. Celui-ci, il est intéressant. Puis vous savez, là, ça fait quand même pratiquement 2 ans. En fait, c'est depuis l'élection partielle dans Jean Talon, hein, en octobre 2023, que les sondages ont commencé à changer. Mais ça fait 2 ans que les Québécois nous disent que leur parti préféré, c'est le Parti québécois. Donc, c'est sûr que c'est une bonne tape dans le dos.
Les Québécois aiment le Parti québécois. Les Québécois aiment moins la souveraineté, moins... Quand on regarde ces résultats de sondage-là aussi, là, on est à peu près à 33 % d'appui au projet de souveraineté du Québec. Est-ce que, tranquillement, pas vite, va falloir commencer à revoir cette promesse-là de tenir un référendum dans un premier mandat? C'est parce que le chemin à faire, il est quand même important.
Ben vous savez, vous m'avez déjà posé cette question-là, vous la posez aussi souvent à Paul Saint-Pierre Plamondon, puis la réponse est toujours la même.
Puis elle va rester la même?
Nous, on est des gens de conviction. Le plan de match, c'est ça, parce que le Québec a besoin de l'indépendance. Ça devient de plus en plus essentiel quand on regarde où va le Canada et quelle est la position du Québec à l'intérieur du Canada. La souveraineté, l'indépendance, c'est nécessaire. Et les sondages, encore une fois, on peut toujours les regarder de plusieurs façons. Vous savez, il y a une donnée qui est très intéressante, qui se confirme depuis un an aussi, c'est que la montée du sentiment indépendantiste chez les jeunes de 18 à 34 ans est très forte. Puis ça aussi, on le voit dans les rues, on l'entend dans les assemblées, vous le voyez dans les spectacles, à la Saint-Jean-Baptiste. Ça, c'est extrêmement important. Alors, nous, on s'en tient à notre plan.
Mais là, M. Paradis, à Saint-Jean-Baptiste, là, ils ont tous pris un verre de trop, là.
ça peut parfois aider, mais là, c'est, on le voit à plusieurs spectacles là, de musique à Québec, à Montréal, partout au Québec, cette montée du sentiment indépendantiste chez les jeunes. On va bâtir là-dessus. Les sondages sont pas tellement différents non plus de ce que c'était à l'aube du dernier référendum en 1995. Il n'y a pas eu de campagne encore.
Parlons-en justement de 1995, celui qui était le porte-étendard. Évidemment, il y avait Jacques Parizeau qui était premier ministre du Québec, mais on avait donné énormément de responsabilités à Lucien Bouchard qui était chef du Bloc québécois. Et là encore hier, sur les ondes de Radio-Canada et TVA, Lucien Bouchard refuse de vous appuyer dans votre démarche d'un référendum lors du premier mandat. Ça doit faire mal, ça, d'avoir un souverainiste convaincu comme ça qui n'est pas de votre bord?
Ben, en fait, il a surtout pas mal refusé de parler politique, hein? Donc,
mais on comprend ce qu'il a voulu dire, là.
Il était là à titre de négociateur là pour les médecins. Il voulait pas trop parler politique. Puis là, il s'est même il y a eu une belle, je voudrais pas dire une prise de bec, mais on voyait que.
Avec Patrice Roy, mais il n'y a pas cet élan-là souverainiste de ses 86 ans, celui qui voulait tant cette souveraineté-là en 1995. Veut pas, c'est une tache noire à votre dossier à l'heure actuelle.
Ben, c'est pas une tache noire. Il y a plusieurs visions différentes des modes d'accès à l'indépendance. Monsieur Bouchard était de l'école des conditions gagnantes. Nous, on continue à penser que c'est un combat qui est nécessaire pour l'avenir du Québec, pour notre prospérité économique, pour la survie de la langue française, de notre culture, pour le maintien de la capacité du Québec, pour le développement de la capacité du Québec à prendre ses décisions lui-même puis à cesser d'être soumis à des décisions qui sont prises par Ottawa dans un régime où on est de plus en plus minoritaire. Donc là, il faut qu'on se rappelle qu'en 2028, tous les Québécoises et les Québécois de moins de 50 ans ne se seront jamais prononcés sur le statut politique du Québec. Puis le statut politique du Québec, il y a des impacts quotidien dans toutes les décisions, dans tous les aspects dont on parle, à chaque fois même qu'on est en entrevue avec vous, là, les questions dont on se parle, il y en a un bout qui s'est toujours décidé par Ottawa et c'est de plus en plus le cas. Alors, cette question-là, elle va devoir se poser, puis nous, on maintient le cap là-dessus.
À la CAQ, on le sait, il y a des anciens souverainistes. Moi, je suis convaincu qu'il y en a pas mal qui sont encore souverainistes dans le lot, mais qui peuvent pas le dire. Pascal Paradis le voit comment, ça, si le Parti québécois accepte d'accueillir des députés caquistes qui disent « Moi, je reviens souverainiste, puis je suis prêt à me battre pour la cause?
Oh, » on n'est pas là du tout. Là, il y a un rendez-vous électoral qui s'en vient. En 2026, et nous, on est en train de bâtir l'équipe là, pour avoir la meilleure équipe possible. C'est là-dessus qu'on se concentre actuellement. On se concentre pas là, sur les gens des autres partis.
Actuellement, on voit beaucoup de membres actuels ou d'anciens membres de Québec solidaire tenter de venir se coller au PQ. D'un autre côté, Alex Boissonneau a été élu dans Arthabasca en se disant de centre-droit. On est où au PQ, à gauche ou à droite de l'échiquier politique?
Ah, c'est une coalition, le Parti québécois, ça l'a toujours été. Et il y a de la place pour des gens de différentes couleurs, de différentes saveurs politiques. L'important, justement, c'est de s'unir vers ce projet de pays. Puis aussi, ben, on a un programme quand même au Parti québécois qui fait en sorte que ben on peut s'y retrouver, là, qu'on soit de centre, entre-gauche, centre-droit. Mais c'est un programme qui est pragmatique, puis c'est un programme qui vise à faire en sorte que les Québécois aient accès à des services publics qui sont accessibles, qui sont efficaces, que notre économie prospère. Alors, comme ça l'était en 1976 dans le premier gouvernement, dans le deuxième, dans le troisième gouvernement du Parti québécois, c'est une coalition.
Je suis curieux, Pascal Paradis, lui, se considère de gauche, de centre-gauche, de centre-droit. Pascal Paradis, il est où, lui, là-dessus?
Ah, la fameuse question... C'est drôle parce qu'on me la pose souvent, et puis les gens me disent « Ben oui, mais es-tu centre-gauche, centre-droit? » Moi, quand j'entends Alex Boissonneau parler de l'efficacité des services publics, de l'importance de redresser la barre actuellement, de bris du contrat social, ben si c'est ça, être de centre-droit, ben je me réclame de ça. Mais vous savez, je suis quelqu'un aussi qui arrive du milieu communautaire, des politiques sociales fortes, des services publics qui sont là pour laisser personne derrière. Ça, je pense qu'on peut qualifier ça de centre-gauche. Et puis, je me réclame de ça. Je me suis toujours réclamé de ça. Alors, vous savez, ce spectre-là, il est de plus en plus difficile à définir. Et c'est justement le Parti québécois, lui, opte pour des solutions pragmatiques qui sont quelque part dans ce spectre-là, là, entre le centre droit, le centre et le centre gauche.
Un Québec souverain devra être fort économiquement. Qu'est-ce que le PQ pense du développement de nos ressources naturelles, entre autres le gaz naturel, ou voire même les projets de pipeline à l'échelle canadienne?
Ben là, les projets de pipeline, il n'y en a toujours pas sur la table. Et s'il y en a, ça va toujours être les deux mêmes questions qui vont devoir se poser. Quel est l'intérêt économique du Québec? Est-ce que c'est dans notre intérêt économique de faire passer du pétrole de l'Ouest sous nos lacs, nos rivières, pour aller les mettre dans les bateaux puis les faire partir? Pour l'instant, ça n'a jamais été démontré. Et deuxièmement, ça prend de l'acceptabilité sociale aussi. Alors ça, c'est deux éléments. Puis d'abord, ça prend un projet sur la table, il n'y en a pas. On a beaucoup parlé aussi de gaz liquide, etc. Les marchés n'ont jamais été au rendez-vous. Mmh. Puis là non plus, il n'y a jamais eu de débouché qui a été démontré.
Mais êtes-vous ouvert si le marché est au rendez-vous?
Bien, nous, ce qu'on privilégie actuellement, là, c'est le développement de notre force, de nos ressources naturelles à nous. Puis c'est dans le domaine de l'électricité, c'est dans le domaine des énergies renouvelables où le potentiel n'a pas encore été exploité. Puis où il y a une soif chez nos voisins, notamment chez nos voisins du Sud, qui ont besoin de cette énergie-là. Puis nous, au Québec, on en a encore besoin. Vous le savez, là, les prévisions sont à l'effet qu'on va avoir des besoins énergétiques immenses pour les années à venir. Puis on a la capacité d'y répondre avec nos propres ressources naturelles. Donc ça, c'est dans notre intérêt économique au Québec de miser là-dessus d'abord et avant tout.
Pascal Paradis, les députés de Jean Talon, ici même à Québec. Il est également critique du Parti québécois en matière de transformation numérique. Je vous souhaite un excellent spectacle à compter de 9h à la Commission Galland pour le témoignage de François Bernardel. Et au plaisir de se reparler, c'est toujours intéressant. Vous avez toujours réponse à nos questions et vous ne contournez pas ces questions-là. Alors merci beaucoup pour votre présence à Boulevard Again ce matin.
À une prochaine, au revoir.
Merci, bye. Au revoir, Pascal Paradis du Parti québécois. Ceux qui disent que la souveraineté, il ne faut plus parler de ça, là. Quand on jase de souveraineté, on a tellement des textos qui rentrent.
Ah oui, c'est fou. Ça passionne encore.
Ça passionne encore et ça vient dans les deux sens. Ça vient dans le sens un petit peu plus chez nos auditeurs de monde qui ne sont pas souverainistes à l'heure actuelle, mais ça vient dans les deux sens. Et tout le monde a des bons arguments, c'est ce que j'aime, des arguments bien sentis. On parle beaucoup de, justement, la béquille financière qu'on se parlait tout à l'heure, la fameuse dette du Canada qu'on sera obligé d'en assumer une partie qui ferait en sorte que ce serait horrible pour le Québec au départ.
Bien, de là, l'importance pour le Parti québécois d'arriver avec son fameux livre bleu puis qu'il soit solide, qu'il soit béton. Parce que, je l'ai dit hier, je le répète, là, les fédéralistes vont te l'attendre de pied ferme en Simonac, ce livre bleu-là qui doit jeter les bases de ce que serait un Québec souverain sous un gouvernement du Parti québécois. Si t'as des affaires qui se tiennent pas dans ce livre bleu-là, tu viens de perdre beaucoup de crédibilité avec ton projet.
Clairement, t'as bien beau avoir présentement une recrudescence au niveau des jeunes, t'as bien beau croire que le 36% va pousser favorablement vers un 50%, mais si t'as pas de crédibilité économique et en gestion financière, je pense que tu y arriveras jamais à ce fameux 50%-là. Est-ce que je me trompe?
Ben, c'est sûr que... La base d'appui au projet de souveraineté va toujours rester à peu près d'une personne sur trois.
Ouais.
Maintenant, la question, c'est comment tu vas chercher le 50%, puis l'affaire, c'est que... t'as pas énormément d'indécis dans ce dossier-là.
En effet, t'as raison.
Souveraineté, là, c'est bien rare quelqu'un qui va dire « je le sais pas ». Souveraineté, souvent, t'es pour ou t'es contre. Fait que, tu sais, dans un...
Faut que tu sois convaincant pour aller chercher les comptes.
C'est ça, tu sais, dans une place où, dans certains aspects où tu peux avoir beaucoup d'indécis, tu te dis hey, « regarde, moi, si je réussis à aller chercher tel pourcentage d'indécis, je l'ai. » OK, cool. Dans un dossier comme la souveraineté... faut vraiment que tu fasses passer quelqu'un du non au oui.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, c'est lourd de sens, là, voter oui à un référendum, de dire on va avoir notre pays. C'est lourd de conséquences, qu'elle soit positive ou négative.
Exactement.
Fait que c'est sûr que le statu quo part toujours avec l'avantage parce qu'on a peur de l'inconnu.
Oui, parce que juste, je vais te nommer des choses. Qu'est-ce qu'on va avec l'armée? Qu'est-ce qu'on va avec la monnaie? Tu sais, c'est plein d'inconnus à l'heure actuelle.
Et, bon, l'autre affaire de cette entrevue-là,
Là, je vais commencer à réunir. Je vais aller fouiller dans toutes nos vieilles entrevues, puis à réunir toutes les fois où on nous a assuré un référendum dans un premier mandat, puis qu'on persiste et signe, puis qu'on...
Ouais.
C'est parce que là, ils peuvent plus reculer, là. Ils l'ont dit trop souvent.
Oui, t'as raison, ils l'ont dit trop souvent. D'un autre côté, j'admire ce cran-là.
Beaucoup, s'il respecte.
Mais je vais l'admirer jusqu'à ce qu'il le respecte à 100%. Et là, à ce moment-là, ben, ça sera à moi de décider si le PQ, évidemment, est élu majoritaire aux prochaines élections, si je coche oui ou je coche non. On s'en va en musique, c'est Shine Down, Second Chance, et après, on fait un tour d'actualité. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101, c'est Boulevard Again ce matin avec Jeff Fortin, Max Larouche et Mathias Turcotte. Merci d'être à l'écoute. Merci de réagir autant par texto.